Lumière de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, dimanche dernier, je vous ai parlé de la perfection et de la valeur qu'il convient de donner à ce terme. Le Christ dit à un moment de son enseignement « Soyez parfaits comme le Père dans le ciel ». On pense souvent que l'imperfection est humaine, alors que la perfection est inhumaine, voire ennuyeuse. C'est exactement l'inverse qui se passe. La perfection est ce qu'il y a de plus humain, et l'imperfection, ce qu'il y a de plus inhumain. La perfection est humaine parce qu'elle nous emmène au-delà de nous-mêmes. Elle ne nous laisse pas stagner dans l'imperfection. L'imperfection est inhumaine parce qu'elle nous laisse stagner. Elle ne nous emmène pas au-delà. Ce qui est vrai pour la perfection l'est pour l'obéissance, qui est aussi mal comprise. Je n'ai jamais entendu d'éloge de l'obéissance. À l'inverse, j'entends en permanence des éloges de la désobéissance. Il serait intelligent de désobéir et il serait bête d'obéir. Il est très intelligent d'obéir et il est parfaitement bête de désobéir. Il est bête de désobéir, pourquoi ? Parce que on confond soumission et obéissance. Et par là même, on confond révolte et liberté. Obéir veut dire que on répond à un appel venu d'en haut en allant vers la partie supérieure de l'existence, de notre existence et de l'être. Un artiste obéit à l'art qu'il appelle. Il obéit parce qu'il se sent libre. Quand il accepte d'être poussé par une force, une énergie qui l'emmène au-delà de lui-même, vers le grand, le créatif, le novateur. Il ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que veut l'art. Et c'est ce qui fait qu'il est un artiste. Les vraies révoltes sont des retournements intérieurs qui se fondent également sur l'obéissance. On trouve trois retournements intérieurs importants. Le premier est pratique, le deuxième est humain, le troisième est ontologique et céleste. Quand quelque chose est totalement dépourvu de bon sens, il y a en nous une insurrection, une révolte contre ce qui défie l'intelligence. Quand nous nous révoltons ainsi, nous obéissons à un appel intérieur qui est l'appel de l'intelligence pratique. Même chose au niveau humain. Lorsque nous sommes confrontés à des situations indignes qui maltraitent l'humanité, il y a en nous un mouvement de révolte au sens de volte-face. Nous ne voulons plus faire face et regarder paisiblement cette indignité. Nous voulons qu'elle cesse. Nous obéissons à un appel intérieur qui nous emmène au-delà de nous-mêmes, c'est-à-dire au-delà de l'indignité vers la dignité. Enfin, il y a dans l'être humain l'appel de Dieu. Nous sentons à un moment que la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'elle est reliée à une dimension supérieure de notre être qui est une existence inouïe absolue qui embrasse tout. Et nous sentons le besoin de répondre à son appel afin de nous unir totalement à elle. Quand il y a obéissance, il y a toujours révolte au sens positif. Et quand il y a révolte au sens positif, il y a obéissance. La révolte n'est pas liée à la détestation de quelque chose, mais au contraire à l'amour de quelque chose qui nous amène à quitter un état insatisfaisant, voire intolérable, pour pouvoir embrasser un état non seulement satisfaisant, honorable, mais infiniment désirable. La révolte à laquelle on a affaire le plus souvent est une révolte pauvre. qui est en relation également à une soumission qui est pauvre. On entend souvent par révolte le fait de se révolter a priori contre toute autorité. « Ni Dieu ni maître », clament les anarchistes. Cette manière d'être contre est profondément limitée et limitante. Pourquoi ? Parce que pour vivre, nous avons toujours besoin d'adhérer à quelque chose. Et adhérer ne veut pas dire se soumettre, c'est-à-dire obéir bêtement sans comprendre, devenir les esclaves de quelque chose ou de quelqu'un. Bien évidemment, quand on devient bêtement l'esclave de quelque chose ou de quelqu'un, ou bien encore d'une idée, il est salutaire de se fâcher, à condition de faire apparaître les conditions de la liberté. La liberté passe toujours par l'obéissance, c'est-à-dire par l'écoute en nous du vivant qui nous emmène au-delà. Et c'est parce que nous envisageons ainsi la liberté, non pas comme fait de faire ce que l'on veut, mais de vivre profondément ce qui est et ce qui fait être, que nous pouvons devenir libres. L'homme vertueux est par définition un être obéissant. Il a fait l'expérience de la perfection. Il a été impressionné par elle et il a compris le message qu'elle lui lance. Tu as aimé la perfection, deviens toi-même parfait afin de la faire aimer et de faire connaître aux autres le bienfait que la perfection t'a apporté. Les sages, et encore plus les saints, sont ceux qui mettent leur vie au service de la perfection et qui libèrent tout le monde en leur permettant de faire l'expérience de la liberté comme obéissance et l'obéissance comme liberté, obéissance et liberté étant l'appel qui nous permet de nous dépasser et d'aller au-delà de nous-mêmes. On aura reconnu le début de la liturgie par le chœur de la cathédrale de Moscou. Chers amis, j'ai le plaisir, ce mois-ci, pour la deuxième fois, de recevoir le père Philippe Dautet, qui anime magistralement la communauté d'études et de prières Sainte-Croix qui se trouve en Dordogne. Et la dernière fois, d'une manière magnifique, il est venu nous raconter comment il est rentré dans la vie spirituelle, à la fois par des expériences très fortes, très jeunes, à 4 ans et 8 ans, puis la rencontre d'Annie de Souzenel, puis la rencontre des monastères coptes d'Égypte. Et ensuite, alors, Sainte-Croix est née. Et alors, comment ça s'est passé, le passage de l'addict Souzenel, et puis tout d'un coup, la mise en place de tout ça, parce que ça ne s'est pas fait en 24 heures.
Ça ne s'est pas fait en 24 heures, ça s'est fait dans la durée. Parce que, en fait, donc, comme j'ai dit la dernière fois, notre projet en arrivant à Sainte-Croix, donc on a trouvé un lieu adéquat avec une église romane qui était en ruine, et donc tout était là pour qu'on puisse développer ce projet qui était un double projet, vivre en communauté. Et à l'époque, les communautés de famille étaient très répandues dans les milieux catholiques, n'existaient pas dans les milieux orthodoxes, mais très répandues dans les milieux catholiques, et d'autre part, lieu d'accueil pour accueillir donc des témoins de la foi qui pouvaient alimenter, nourrir notre vie spirituelle. Et donc, c'était une respiration entre les deux, un vécu, une expérience, et puis, d'autre part, un enrichissement par le fait de faire venir des intervenants sur place. Voilà, donc, on a mis en place, mais ça a été évidemment toute une construction, parce que on a trouvé des bâtiments qu'on n'a pas achetés très chers, mais il a fallu beaucoup de travaux, donc il y a eu 20 ans de travaux, mais les travaux font partie aussi, je dirais, d'une une forme d'incarnation.
Les moines sont bâtisseurs.
Les moines sont bâtisseurs, et on peut remarquer que dans l'histoire, les plus grands saints font partie des moines bâtisseurs ou des moines qui ont été dans le lancement de projets.
Ils ont tout fait.
Après, les autres se sont installés, un peu moins performants. Nous, on a été à l'inauguration de ce
bâtir
projet.
Bâtir des monastères, combattre les hérésies, assurer la liturgie, soigner, éduquer.
C'est ça, exactement. Multitâche, comme on dit aujourd'hui. Multitâche, donc nous avons été multitâche, qui était un investissement énorme. Et aujourd'hui, je vois bien que ce genre de choses, ça ne fait pas écho vraiment pour les contemporains. Les jeunes ont beaucoup de mal à vivre de tels investissements, parce qu'on ne compte pas, évidemment, son temps. On est totalement investi.
Qui sait, ça peut peut-être revenir. Moi, j'ai le sentiment, pour avoir eu le bonheur d'être invité par vous à Sainte-Croix, d'un fantastique travail sur la société française, et je voulais vous dire ma reconnaissance en disant mais c'est merveilleux que des lieux comme ça existent pour nourrir la société française. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont venus, mais vous êtes aussi allé vers cette société.
Tout à fait, vers cette société, et c'était un grand bonheur pour moi, donc organiser des sessions, des retraites de prière, des retraites d'accompagnement personnel, etc. Et puis des colloques aussi. Et donc, dans les colloques, on a eu des moments extraordinaires. Donc, il y a eu colloques, par exemple, science et spiritualité, où on a rencontré Bassaram Nicolescu, Trinh Xuan Thuan, beaucoup de scientifiques qui sont venus
de haut niveau,
avec le père Thierry Magnin de l'Église catholique, qui a été recteur de l'Institut catholique de Lyon, puis de Lille, ensuite. Oui. Voilà, donc on a rencontré, dans ce moment des fins des années 90, des gens extraordinaire, qui nous a ouvert des horizons avec effectivement des dialogues croisés pour confronter toute l'approche spirituelle avec la réalité scientifique dans sa perspective effectivement quantique, avec toute l'ouverture que ça peut représenter. Donc on a eu ces colloques qui étaient magnifiques, on a eu colloques aussi science et éducation et spiritualité, on a eu aussi colloques écologie et spiritualité.
Un très beau colloque sur Berdiaïev.
Il y a eu un très beau colloque sur
Nicolas
Berdiaïev. Voilà, donc on a eu toute une série de colloques pendant des années qui ont été aussi très, très enrichissants et qui nous a permis de faire des transversales. C'est-à-dire de voir que, en fait, la spiritualité s'applique à toute chose, premièrement. Et puis, deuxièmement, il y a une cohérence dans l'univers, une cohérence dans l'observation de l'univers, il y a une cohérence dans l'humain, et qu'on s'est appliqué à mettre en évidence cette cohérence.
Vous êtes comme moi, mais par exemple, j'étudie soit dans le champ de la philosophie ou dans de la science, et je m'aperçois que, d'une manière mystérieuse, la même chose se passe dans le plan spirituel. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a pas de volonté de vouloir prouver quelque chose, démontrer une vérité, mais il y a la découverte d'un parallélisme. Vous voyez, très souvent, et très souvent, quand c'est cohérent dans la foi, c'est cohérent partout. Et quand c'est cohérent partout, c'est cohérent dans la foi.
Exactement. Et donc, pour moi, cet axe de la cohérence est fondamental. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui est vrai, c'est vrai partout. Ouais. Ou c'est vrai nulle part. Et donc, de mettre en évidence ces cohérences, bah, ça nous aide à cheminer vers notre propre cohérence. Parce que c'est ça aussi, pour nous, être cohérent avec soi-même, c'est-à-dire aller vers une unité intérieure, c'est bien ça l'axe de la vie spirituelle.
Et puis, on trouve un bon équilibre entre la foi et la raison, qui est la grande question qui a agité l'Occident.
C'est ça.
C'est-à-dire, on ne ramène pas la foi à la raison, on ne ramène pas la raison à la foi, mais on part du mystère que l'on accepte totalement, mais à partir de là, il est totalement cohérent. C'est-à-dire, on ne pense pas le mystère, on pense à partir du mystère, et la cohérence découle de lui.
C'est ça. Et donc, il y a toute la dimension de l'approche avec la raison, mais l'approche raisonnable n'est pas la rationalisation du monde.
Voilà.
La rationalisation, c'était la déviation, était une déviation vers une objectivation du monde, avec tout l'héritage cartésien de la séparation des parties pour connaître le tout. Non, il s'agit de garder toute la dynamique du lien entre les parties du tout pour accéder à la vie et non pas à des dimensions objectivées de la vie. Donc ici, il y avait toute une dialectique entre raison, conscience et souffle, qui pour nous était...
Et puis alors, vous avez dû assister quand même à beaucoup de conversions, beaucoup de gens qui sont venus vers vous, qui sont rentrés dans l'Église à la foi.
Oui, voilà, c'est ça, beaucoup de personnes, mais dans le respect. C'est-à-dire, c'est pas les personnes qui sont venues à Sainte-Croix sont pas forcément des gens qui sont devenus orthodoxes. Il y en a,
oui,
mais il y a beaucoup de personnes aussi qui étaient catholiques, qui ont été redynamisées dans leur foi catholique.
Dans leur catholicisme.
Absolument. Oui, donc, oui. On n'a pas voulu être missionnaire.
Annexé.
On n'a pas voulu annexer les âmes, mais les ramener vers Dieu, parce que pour nous, quand même, l'axe, c'est l'axe de l'Évangile, c'est l'axe du Christ.
Mais vous avez laissé les choses se faire d'elles-mêmes.
Exactement.
Si il devait devenir orthodoxe, il devenait orthodoxe. Ah, oui. S'il devait retrouver la foi, la foi, s'ils retrouvaient leur catholicisme, voilà. Ils retrouvaient leur catholicisme.
Pour nous, la question de la liberté était fondamentale et il ne s'agissait pas ici d'agir ou de faire pression en quoi que ce soit sur la liberté des personnes.
Mais c'est pour moi quelque chose d'extraordinairement original. Je n'ai jamais vu une communauté comme la vôtre tellement singulière. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est aussi l'amitié et la qualité de relation humaine entre toutes les personnes qui étaient là. C'était vraiment un ressourcement complet. Hein. Trois jours, on était régénérés.
Voilà. Et pour nous, c'est important parce qu'effectivement, le fondement de la liberté fait que chacun est à l'aise, parce que il y a le fait que chacun peut se mouvoir, peut poser des questions, peut s'impliquer dans la liberté et dans le fait que ce qui est important, c'est que chacun soit dynamisé dans sa vie spirituelle. Et donc, ça fait dynamique relationnelle extraordinaire, parce que là, les personnes peuvent parler de l'essentiel ensemble, ce qu'elles ne peuvent pas faire forcément en famille, qu'elles ne peuvent pas faire dans leur milieu social, mais elles peuvent...
On ne peut parler que de ça. Merci, cher Père, pour cet approfondissement. Toujours par le cœur de la cathédrale de Moscou, ce chant de la divine liturgie. Olivier Clément nous a montré comment l'homme qui est cassé par son ego retrouve la liberté de lui-même lorsque, confronté à la beauté du monde, il se souvient de sa structure divine. Face à la beauté du monde, face à l'émerveillement qu'elle produit, le matérialisme réduit celle-ci à une projection psychologique. Qu'y a-t-il derrière la beauté du monde ? Une projection psychologique ? Nullement. Mais une expression de la gloire divine, dont le père Jean Kowalewski nous parle fort bien dans son livre « La liturgie céleste ». Trois temples, à l'image de la triunité, forment le fondement du monde, écrit-il. Le temple cosmique de l'esprit habite l'univers et tout fut créé par le Verbe. Le temple en pierre, l'Église, est le lieu où réside la gloire divine et où s'accomplit le mystère eucharistique. Enfin, le corps humain, temple du Saint-Esprit. Glorifiez Dieu dans votre corps, écrit saint Paul. Trois liturgies s'y déroulent. La liturgie cosmique, la liturgie ecclésiale, la liturgie intérieure de l'homme. La liturgie céleste n'est pas une quatrième liturgie. Elle résume toute liturgie. Saint des saints de la liturgie cosmique, cœur du monde et sanctuaire de la création, la liturgie ecclésiale la reflète. Les anges concélèbrent avec les prêtres et participent avec les fidèles à l'action de la grâce. On peut concevoir le corps humain à l'image du cosmos, microcosmos ou univers en miniature. Les temples, comme symbole de l'univers, constituent la vision classique. La vision paulinienne conçoit l'univers et les temples à l'image du corps humain dont le Christ est le chef. Enfin, le corps humain et le cosmos, à l'image du temple éternel, constituent la vision biblique. Les églises deviennent alors l'actualisation dans l'espace et dans le temps de l'Eucharistie perpétuelle. Ces trois conceptions s'harmonisent et glorifient la Trinité. Derrière la beauté du monde, comme le dit Jean Kowalewski, se trouve non pas une projection psychologique, mais une projection divine de Dieu sur le monde, révélant à celui-ci sa destination. L'homme est fait pour la gloire, non pas la gloire de l'homme, mais une gloire plus que glorieuse, allant au-delà de toute gloire. Et pour terminer cette émission, à nouveau, le chœur de la cathédrale de Moscou. Субтитры создавал DimaTorzok.